Lundi 22 septembre, il est 16h. Au retour, accrochez-vous à vos volants, on passe en première vitesse. Bon lundi à tous et aussi bon lundi à Philippe Giard qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Mathieu, je suis là. Lundi.
Passez une belle fin de semaine, Philippe.
Oui, une petite fin de semaine assez tranquille.
Pas de fessayant.
On a fait un peu de cuisine en fin de semaine. C'est ça, en fin de semaine?
Ben, tu nous as fait des macarons un jeudi.
Non, c'est
random,
vrai que c'est
là.
Jeudi, ça.
OK.
Ouais, ma fin de semaine, c'est assez éclipsé, là. Je veux dire.
Vous, ça, là.
Ouais, c'est correct. Mais un petit peu de disc golf, comme d'habitude.
Ah.
On en profite. Là, c'est la peak saison de disc golf.
T'es sérieux?
Ah, oui. L'automne.
C'est là ou jamais, là.
Ah, l'automne, Mathieu, je sais pas. Il y a quelque chose. Ça a une autre saveur en automne. Ça a une autre saveur.
Avec grand plaisir. Bah,
d'ailleurs, c'est juste à partir d'aujourd'hui que c'est l'automne, là. Joyeux équinoxe. Joyeux équinoxe, tout le monde.
Ah, ben bon Dieu, Seigneur. OK. Ouais. Ben oui, absolument. Joyeux automne à tous. Et là, Phil, je n'étais pas censé en parler, mais on va se vider le cœur. L'idée à l'automne qui ressort première dans plusieurs discussions, c'est
les
l'idée d'aller chercher des pommes. Je vais vous le dire tout de suite. Là. Il n'y avait aucune chance que je parlais de pommes aujourd'hui. Mmh. Mais là, on se doit d'en parler. Parce que la discussion a été lancée. Aller aux pommes, est-ce vraiment une activité de couple ou est-ce que tu peux y aller entre amis? Et là, je vais pas commencer la discussion, mais je veux que
tu veux que moi je commence.
Oui.
Oui, parce que c'est un sujet délicat, donc tu veux que moi j'aborde le.
Oui, puis après ça, je décolle.
S'il y a quelqu'un qui se fait cancel, dans le fond, c'est moi.
Absolument. Super. Et je vais te poser cette question-là pour commencer. Est-ce que tu as déjà été aux pommes sans. T'as déjà été aux pommes, genre, avec quelqu'un d'autre?
100%.
OK. On vit pas dans le même monde.
Je pense que les seules fois où je suis allé aux pommes dans ma vie, c'est mes parents qui m'ont amené.
OK. Ben, couple et familles, c'est pas mal la même chose. Non, mais je comprends, c'est pas vrai. Là, on exagère un peu. Fait que tu as jamais été avec juste une personne intacte. Est-ce que tu as déjà été avec tes amis aussi, ou c'est vraiment juste la famille?
Non, juste avec la famille.
Maintenant, juste avec la famille.
Maintenant que j'y pense, j'ai jamais fait une sortie aux pommes entre amis.
Comme que c'est bizarre, ces affaires-là.
Ben,
aller aux pommes, là, c'est une activité de couple Instagrammable. C'est rendu
c'est
là.
Vrai,
on est
c'est
rendu
vrai.
Là.
Ben, ça fait des belles photos. Je pense qu'il y a ça aussi.
Oui, ça fait des belles photos, certes.
Oui, donc peut-être que c'est pour ça que quelque part ça attire les jeunes couples, oui, ça, il n'y a pas de doute.
Oui,
mais...
surtout les jeunes couples.
Oui,
on les salue d'ailleurs.
C'est vrai que c'est beaucoup les jeunes couples, maintenant que je m'imagine un peu la scène. Sauf que, tu sais, c'est pas ça le seul attrait. Tu peux aller aux pommes pour d'autres raisons. Je veux dire, tu peux aller aux pommes parce que tu veux cueillir la plus haute pomme de l'arbre.
Bien sûr.
Tu peux aller aux pommes
un défi.
Parce que tu veux... prochain appel, Mathieu.
Oui, je pense qu'on va passer au prochain. Là, je vais vous le dire tout de suite. Tout le monde qui nous écoute, allez aux pommes.
Peut-être que tu veux aller chercher des pommes pour faire une tarte.
Ah, ben, tu veux des tartes aux pommes, Phil? Ça serait une des seules raisons pourquoi j'irais aux pommes, en général. Pas nécessairement... J'aime l'idée de je sais pas, j'aime quand le monde partage leurs photos de pommes, mais j'y réponds, on dirait. Il n'y a pas rien qui m'intéresse là-dedans. J'aime pas assez les pommes pour en cueillir pendant 2 heures et prendre la marche, tu sais. Oui,
ouais.
C'est du temps de qualité, j'en conviens, mais du temps de qualité avec qui?
Mm-hmm.
Avec ta proche ou avec ton proche, tu sais. Dans ma tête, c'est comme ça que ça fonctionne à mon âge. J'ai quand même le quart de siècle, là. Mais je sais pas, je voulais savoir d'un homme qui est un peu moins vieux. Et finalement, je pense pas que j'ai eu vraiment d'éclaircissement par rapport
non,
à la situation.
Je suis désolé, Mathieu, de ne pas avoir pu éclaircir ta situation, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait comme une quête en particulier pour toi, genre?
Ah, ben absolument, et je vois pas le but d'y aller. Parce que
mais
là...
si je te dis, on va essayer de faire du cidre de pomme.
Je vais te demander comment tu t'attends de faire ton cidre de pomme, mais je trouverais ça intéressant.
Ben
c'est bon du cidre de pomme, d'ailleurs.
Ouais.
Énorme shout-out au cidre de pomme. C'est bon pour toi aussi. Mais je vais t'expliquer mon dilemme. C'est que là, moi, mon calendrier est déjà préétabli pour genre jusqu'en mars. Puis il y a des choses qui s'ajoutent après, tu sais, semaine après semaine, évidemment, comme tout bon vent te semble. Mm-hmm. Et l'idée d'aller cueillir des pommes cette journée-là me donne pas l'option de faire rien avec mes pommes. Et je le sais tout de suite, et ça, c'est la pire chose, que mes pommes vont juste traîner dans mon frigidaire et devenir molles. Et il y a rien de pire qu'une pomme molle.
C'est genre, vrai que c'est
affreux. Puis, je vais pas te mentir, moi, je ne suis pas le boulanger du quartier, je suis Mathieu Landry. Il y a une énorme disparité entre les deux. Je te dirais que je ferais bien une tarte aux pommes, mais genre, faut que je prenne le temps de faire une tarte aux pommes. Je sais pas si ça va arriver.
Bon, tu peux toujours acheter la croûte des gens.
Oh, Phil! Aux tartes de pommes, ça, c'est fou.
Non, c'est surtout que je pensais pas que t'avais l'habileté de faire une.
Oh, wow! J'adore cuisiner. Écoute, le Phil, je sais que tu me vois à chaque jour depuis mars arriver avec le même plat à la maison. J'en conviens, OK? Mais ça, c'est parce que j'ai pas le choix. J'aimerais tellement me prendre le temps le soir de genre cuisiner quelque chose à chaque soir parce que c'est plaisant de cuire de la bouffe. C'est extrêmement plaisant.
Ça prend du temps.
Mais ça prend du temps, tu sais, ça prend de ton temps. Écoute, c'est sûr que ça prend aussi de l'argent, mais bon, ça, on peut en passer, là. Mm-hmm. Fait que l'idée d'aller aux pommes, on dirait que ça l'enfreint tellement de chemin pour moi. Tu sais, c'est pas un trou béant que je peux juste me projeter dedans. C'est pas open waters, là, tu sais.
Je comprends.
Je suis un peu stuck dans un tuyau de Mario Bros, tu sais, quand j'y vais.
OK.
Et l'expandre, c'est un peu difficile. Tu comprends ce que je veux dire?
Ah, oui. Ben en c'est même vrai temps, que la métaphore, dans Mario Bros, il y a Yoshi, puis Yoshi, il mange des pommes.
Donc... Il mange aussi ses propres œufs. Je sais pas si on voulait faire cette référence-là, mais...
Pour vrai?
Ben si. Mais ben, comment tu penses que l'œuf, il tient dans sa bouche jusqu'à temps qu'il...
Ben non,
pourquoi qu'on est rendu à Yoshi?
c'est quoi tes pommes préférées?
Ah, des Honey Crisp, je pense.
Ah,
je pense
que c'est des Honey Crisp. Ça, c'est un bon call.
Et je pense pas
qu'à mon avis, c'est les meilleurs aussi.
Attends, OK, je vais faire ça ici. Je vais aller aux pommes s'il y a des Honey Crisp sur un arbre.
Sinon, il y en a.
Il y en a?
Oui, moi je me souviens d'avoir vu des... Oh,
OK,
oui.
Ben, je vais fact-checker ton interprétation de la chose.
Je sais plus où, parce qu'il y a plusieurs vergers dans le coin. Ça fait
longtemps que je suis
allé. Je crois
qu'il faut aller au Béliveau. Je pense qu'il faut aller au Béliveau si t'es pour aller aux pommes.
Ouais, sûrement.
J'assume qu'ils font ça.
Je sais pas la dernière fois que je suis allé, mais je me souviens d'avoir vu des Honey Crisp.
OK.
Ouais.
Ben... Ça va être l'astérix sur la chose. Et là, je vais pogner un petit sac de genre 8 pommes.
Je me demande si ça a affecté les cultures de pommes, par contre, les chaleurs qu'on a eues.
Oui, ben j'avais vu un article là-dessus l'autre jour. En fait, c'est pas fort.
Parce que, ouais, vois-tu, moi, ben, c'est sûr que, bon, les vergers, ils ont des systèmes d'arrosage,
automatique, etc. Sûrement, ouais.
Mais... Je sais qu'au, par exemple, au disc golf où je vais en forêt, parfois il y a des pommiers. Et puis les pommiers étaient pratiquement dégarnis. Là. Il y avait presque rien à voir. Ouais. Des tout petites pommes, là, généralement, ils viennent quand même d'une taille raisonnable. Je te dirais comme peut-être pas une taille de pomme du commerce, mais à peu près comme un pruneau, là, disons.
Okay.
Fait que tu peux trouver des pommes de bonne taille habituellement, mais cette année, ils n'ont pas poussé du tout. Les pommes sont restées toutes petites. J'en ai goûté une l'autre fois, c'était tellement
amer. Ouais.
Mais j'imagine que pour les vergers, avec les systèmes d'arrosage, sûrement ça va un peu mieux, mais c'est sûr que ça a dû leur nuire quand même un peu.
Un peu, sûrement. Ouais. Écoute, j'ai une décision à prendre avant samedi. Je vais vous laisser part de, si j'y vais, bien sûr, mon expérience lundi. Et ça, vraiment, ça va être tout en l'honneur de la Honey Crisp. Parce qu'elle est bonne, la Honey Crisp. Rien de mieux que genre prenez une bonne bouchée. Puis, tu sais, ça frotte pas. Tu creuses pas dans de la neige avec ta pelle. Tu sais, ça sort.
Il y a un morceau qui se.
Ouais.
Oui. Oh. C'est comme.
Ça, c'est du bonbon, ça. Ça, c'est une des meilleures choses. C'est un des petits plaisirs de ce monde. C'est prendre une bouchée. Puis, tu vois pas. Tes dents creusées dans la pomme, où il y a un son qui vient avec un petit toc.
Oui, on aime ça.
Ça, là, c'est le signe d'une bonne pomme. Hey, avec ce dilemme bref-là, qui n'est. Bon, on s'est entendu à la fin du compte. Là. Aujourd'hui, écoute, on accueille d'ailleurs Alain à la voix à l'émission. Il a été courir encore en fin de semaine, surprise. Eh bien, il va venir nous en parler aussi. Il va venir assez régulièrement maintenant du côté de la radio, ce qui est très plaisant pour lui aussi. Je parle de ma fin de semaine. Quiz mystère à la fin de l'émission. Et finalement, Phil, je te partage. Et écoute, on va peut-être passer avec un petit dilemme de ce côté-là aussi. Les meilleurs numéros sportifs avec un peu du raisonnement. derrière. Je t'avertis tout de suite, le 17 n'en fait pas partie nécessairement. On prend une courte pause musicale, puis après ça, on accueille Alain Lavoie. Why are you running? 16h21, au retour, on est accompagné de nul autre qu'Alain Lavoie.
C'est-tu mon intro, Mathieu?
Ah, c'est un homme qui aime bien courir, quoi.
J'en crois pas mes yeux.
Et c'est un homme qui aime bien courir, et je me suis toujours posé la question, pourquoi qu'il court, pourquoi il court, et je l'ai découvert cet été, pourquoi il court, et bien c'est très plaisant. Mais je me demande encore comment il fait avec si peu d'efforts. Et en fin de semaine, Alain, tu l'as à nouveau prouvé que l'effort et la course pour toi n'est pas un, parce qu'il t'est arrivé des choses. On parle bien sûr ici du défi Everest Challenge. Avant de rentrer dans les exploits qui t'ont amené durant cette fin de semaine, parlons un peu du concept du défi Everest, parce que c'est pour une énorme cause et les résultats aussi le prouvent, justement, du défi.
Oui, justement, le défi qui se passe à chaque année, le défi Everest au Parc Haute-Prairie, et cette année, je dois dire que c'était à la fois beaucoup mieux que les autres années d'après les participants. On a passé de presque 200 participants l'année dernière à plus de 500 cette année, donc on a doublé le nombre, qui était excellent. Ils ont aussi amassé 152 000 $ pour le cancer de la myélomane multiple. J'ai de la misère à dire ce nom, ce cancer du sang. Donc, c'est une cause très importante pour chaque année. Et cette année, j'ai vu ça aucunement nulle part dans les médias, mais je pense que c'est important de le mentionner quand même. En plus de cette cause-là, ils ont voulu vraiment élargir la cause et donner à une autre cause qui est très importante pour eux. Puis on donnait un 10 000 $ à Pro Jeunesse. Donc,
oh, wow.
Pro Jeunesse qui encourage l'activité physique aux familles défavorisées. Donc, c'était vraiment incroyable de voir toutes les personnes participantes vraiment dans une belle température aussi. Mm-hmm. On ne pouvait pas demander mieux. Donc, bravo à toute l'équipe organisatrice. Mathieu, je dois pas te le cacher, là, mais c'était un parcours de 2 km. Donc, c'est comme ça fonctionne le défi.
Ah, c'est en cercle, en fait.
Oui, je t'explique un peu le concept, OK, en long et en large. En fait, tu pars du Barbu. Vous connaissez peut-être le Barbu, le bar Barbu. Et l'arrivée est là et la ligne de départ est là aussi. Et tu pars là, tu fais un tour du parc Rotary dans les bois et tu arrives là, c'est 2 km. Donc, mm-hmm. C'est le nombre de tours. Ils calculent vraiment par le nombre de tours. Donc, quand tu passes à la ligne d'arrivée ou à la ligne de départ, ils disent un tour. Qui signifie 2 km.
Okay.
Donc, en quelque sorte, tu essaies de faire le plus de tours possible dans les 4 heures qui sont permis, de 8 heures à midi. Puis, bien sûr, le parc Rotary, on le connaît comme un parc quand même assez avec beaucoup d'élévation.
Ouais,
donc, c'est une petite butte assez à pic qu'on devait monter chaque tour. Donc, c'était bien. Donc, à chaque 1 km, on avait, à chaque 1 km, justement, on avait des stations de rafraîchissement, donc de la Powerade, de l'eau, des bananes, des petits bars de chocolat. Donc, vraiment, l'équipe d'organisation était incroyable, comme on était prêt pour nous à chaque moment. Il faut pas oublier que quand on est 500 personnes qui courent sur 2 km, il y en a du monde.
Mm-hmm.
Donc, ça s'est bien passé. C'était assez fluide comme parcours. Donc, bravo vraiment à toute l'équipe. Là.
Absolument. Puis, écoute, si on peut parler statistiques un peu, 100% du but de la campagne a été atteint assez facilement même. On s'est rajouté peut-être un 50 000 par-dessus, justement, ce qu'on essayait d'aller chercher. Et non seulement ça, mais dans les 576 personnes qui y participaient, presque le double a contribué pour donner justement ce montant-là de 2039, ce qui est sensationnel pour cette cause-là. Mais bon, écoute, ça, c'est expliqué en gros, en large.
Et même Mathieu, par rapport à ça, on voyait même pendant la course, on entendait même que des gens continuaient à y contribuer pendant la course même. Donc, on voit que ça a vraiment rallié les gens, cette cause.
Oui, puis écoute, cette course-là aussi qui se passe en équipe de 5. Tu étais notamment avec le groupe de Shop Santé.
Shop Santé. Un petit clin d'œil à mes amis de Shop Santé. Merci de m'avoir accueilli dans votre équipe. C'était une fabuleuse équipe. Puis je pense que c'est pas tant la victoire ou c'est pas tant les pointages qui comptent, mais vraiment l'énergie qui était apportée. Puis cette équipe-là, je pense que c'était une très belle énergie. Là.
Parce qu'il y avait un esprit de compétition comme ça. Tu as parlé de pointage. Je pensais pas qu'il y avait... quelque sorte de compétition dans le mix.
Ben, en fait, je ne comprenais pas non plus tout le concept avant d'y arriver. Donc, oui, tu pouvais gagner par équipe. Donc, l'équipe qui faisait le plus de tours possible.
OK.
Et les individus qui faisaient le plus de tours possible.
Ah, oh, OK.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait un prix derrière ça? Ou c'était...
Oui.
Oh,
okay. Un prix pour les deux types de catégories, en quelque sorte.
Et les prix, c'était quoi exactement?
Ben, si je dévoile le prix, je vais dévoiler le gagnant.
Ah, ben bien.
Non, Mathieu... c'était pour la première place où je pense que c'était tous les mêmes prix. C'était un speaker Bose.
Bose.
Je le dis bien. Puis une carte de 100$ de Ernest.
Ah, oh, Ernest, ouais, OK.
Ernest, pas un magasin que je magasine, mais on va aller explorer, hein?
Ben là, ça veut donc dire que t'as gagné quelque chose, comme
oui,
ça.
Mathieu.
C'est...
Ben...
En effet. Non, mais dis-le, il faut que ça soit dit. Non seulement tu as gagné quelque chose, mais apparemment, il y avait un record à battre.
Oui.
C'est maintenant reconstitué au trophée Alain Lavoie.
Ouais.
Ce que j'ai...
Ben, Mathieu, je veux dire, j'ai commencé, on le rappelle, que j'ai couru un marathon il y a 2 semaines,
oui,
qui n'a pas très bien été. Donc, j'étais encore en rétablissement, on va dire, de ce marathon-là. J'avais fait 2 ou 3 courses juste pour me shaker un peu les jambes avant cette course-là du samedi matin. Donc, j'ai arrivé là avec aucune attente. Vraiment, je voulais juste courir avec d'autres personnes que j'aimais courir avec. On peut voir, ouais, on peut voir des gens, Marc Doiron, des Sébastien Cormier, des personnes qui sont agréables à courir avec et parler. Et donc, c'était ça l'objectif, de commencer et voir. Moi, j'avais en tête peut-être de faire un 20 à 30 kilomètres. Pour moi, ça se passait bien en discutant et tout. Et donc, c'est ça. J'ai commencé avec l'objectif de faire un 20 à 30 km, suivre des personnes. Puis, à 30 km, on était peut-être à 2h30, 2h15, je ne me rappelle plus exactement. Et j'ai commencé, puis je m'ai bien hydraté, je m'ai bien nourri, tout ça. J'ai commencé à bien filer.
Ça allait bien.
Jambes étaient fraîches. J'ai dit, ben, je ne vais pas m'arrêter ici. Je regarde ma montre, puis là, je savais c'était quoi le record. Donc, c'était...
Oh, OK, t'en avais conscience déjà.
Oui, je savais c'était quoi le record parce qu'on avait parlé avant et tout. Les personnes me demandaient qu'est-ce que tu vas faire, je sais pas. Personne vraiment s'attaquait au record, mais il y a du monde qui le visait quand même.
Okay.
Donc, je regarde ma montre, je suis comme, ça va bien. Peut-être que si j'accélère un peu, je pourrais peut-être faire le record. Puis, comme de fait, j'ai juste dit, ben, allons-y. Puis, à 35 km, je savais qu'il y avait 2-3 personnes devant moi. Mais à 35-36 km, je passe le tour, on commence à dire « Alain Lavoie, le meneur ». Là, je regarde autour de moi, je suis comme « Il me semble qu'il y avait 2 personnes en avant de moi, mais peut-être qu'ils ont arrêté, mais je ne les ai pas vus. »
Okay.
Donc, j'étais meneur à 36 km. J'ai dit « Ben, tant qu'à être meneur, j'ai dit je vais essayer d'aller pour le record, mais il fallait que j'accélère un peu plus. » Donc,
okay,
à un ordre d'idée, j'étais à du 4-40, mais là, il fallait que je passe à du 4-15 pour un bon 14 km. 15 km pour me rendre à 52 km. Donc, je me suis dit, les jambes étaient fraîches, les buts étaient difficiles, allons-y, on y va pour le record. Et par merveille, je me suis rendu au 50e kilomètre. La manière ça fonctionne, c'est que tu dois absolument faire 2 km pour que ton laps compte. Donc, à 50 km, c'était le record. Donc, je me suis rendu à 50 km. Mais comme je l'ai fait plus rapidement que la personne de l'année dernière, j'avais pas le temps de faire un autre 2 km.
Okay.
Mais comme je l'ai fait plus rapidement, c'est moi qui ai eu justement le record. Mais, il y avait tellement de personnes que je devais dévier et tout, que j'ai finalement fait 51,4 km. Donc, en tout, ça m'a ajouté 1,4 km juste couper les personnes pendant ces 4 heures-là.
Oh, wow!
Ouais.
Oh, 1,4 km de juste vraiment éviter des gens.
Ouais.
Ça, c'est un peu ma course, je te dis.
Donc, oui, ça a été une belle surprise. J'ai réussi à faire cet exploit et ça allait quand même bien. Donc, ça me rassure pour les prochaines étapes.
Ben, absolument. Ouais, ben, OK. Là, il faut en parler parce que, bon, on en a jasé un peu en ronde parce que c'est l'idée de la chose. Mais là, tu nous mentionnais, la première chose que tu nous avais dit, c'est que, gars, moi, je filais comme un homme neuf là-dessus. Et là, tu étais un peu déçu parce que durant le marathon, c'était pas la même chose.
Non.
l'idée de, écoute, selon ce que j'ai compris, l'idée est que de ne pas t'en faire pour le prochain marathon. Je crois que le stress avait embarqué durant le premier. Dis-moi si j'ai tort. Dans ma tête, c'est le stress sur le premier marathon. Le deuxième, on essaye d'être confortable, puis les gens vont suivre.
Oui, mais Mathieu, en fait, c'est ça la différence. Mon marathon était tellement prévu. Mon marathon, ça faisait 4 mois que je m'entraînais pour. C'était un bloc spécifique. C'était des entraînements spécifiques. Tandis que le défi Everest, c'était une course, un rassemblement, puis on le faisait pour la cause. On le faisait pas nécessairement pour le temps, on le faisait pas pour l'exploit, peu importe. Donc, j'arrivais avec aucune attente. J'ai même pas, tu sais, fait attention à ma nutrition la semaine avant, comme j'avais fait avec mon marathon. J'ai bien dormi la nuit parce que j'étais pas nerveux. Puis, j'ai arrivé, voyons voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Puis, anecdotiquement, mon 42 km de mon 51,4 km...
Oui.
Était 1 minute plus lent que mon marathon dans 700 mètres de dénivelé. Donc, ça en dit gros sur ma performance, mon marathon qui était atroce. Puis, c'est ça, ça en dit gros sur ma capacité d'aller beaucoup mieux. Donc, c'est ça, je pense que c'est beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, juste le stress et la mauvaise nutrition. Des petites choses que j'ai dit que j'allais corriger. J'ai justement pratiqué pendant le défi Everest, ça a très bien été.
Ben clairement. Écoute, on est devant un homme qui détient maintenant un record, ce qui est vraiment chouette, mais on était là pour la cause, et bien évidemment, c'était la meilleure des choses.
Mais si je peux faire un petit clin d'œil aussi, parlant de record, je veux faire un petit clin d'œil à mon collègue Jean-Marc Doiron, sans pression non plus. Jean-Marc, qui était là pour pratiquer son juggling en bon français, qui s'attaque au record encore une fois cette année à Toronto, au Marathon de Toronto, donc qui s'entraîne extrêmement fort. Donc, je lui souhaite la meilleure des chances pour aller battre le record, le Guinness World Record du plus vite marathon en jonglant.
Ah, absolument. C'est très intéressant ce que cet homme-là a fait, d'ailleurs. Question avant qu'on se quitte. L'an prochain, on se fait une équipe Kodiak?
C'est drôle que tu dis ça, Mathieu, parce que pendant la course, je voyais des tentes et je me suis dit, j'aurais aimé voir Kodiak justement ici. On a peut-être un oubli, mais oui, ça serait cool, une équipe de Kodiak.
Commenter la course. À moi vers l'intérieur, c'est le record! Oui!
C'était moins intense que ça, Mathieu, mais merci de cet encouragement.
Ah, merci encore une fois, Alain, d'être venu nous jaser un peu, bien sûr, de cet exploit-là. Puis écoute, l'an prochain, on va se faire une équipe. L'année prochaine, on s'en va faire une course de kayak. Puis en plus de ça, on s'en va faire le défi Everest. Ça va être une équipe complètement changée, gars. La route est longue. Lundi 22 septembre, il est 17h au retour. Accrochez-vous à vos volants, on passe en deuxième vitesse. Bon début de la deuxième heure à tous et aussi bon début de la deuxième heure à Philippe qui est toujours là. Philippe, dans le monde du sport, eh bien, l'une des choses qui associe largement un joueur à, bon, peu importe là, son caractère ou quoi que ce soit, c'est son numéro. Bien sûr. Quand tu étais jeune, Philippe, bien sûr que tu as participé à quelques sports d'équipe et tout le tralala où tu devais avoir un numéro. Est-ce que tu as toujours eu le même ou non?
Non, ça a changé, je te dirais, au fil des années, mais j'avais toujours comme la volonté d'avoir le même. C'est juste que c'est souvent une sélection qui se fait, bon, plus ou moins au hasard. Parfois, c'est les vétérans.
La sélection naturelle.
Les plus vieux qui vont choisir le numéro d'abord. Ou sinon, des fois, ça va être juste les premiers arrivés, premiers servis aussi. Donc, souvent, je te dirais que le numéro que je visais quand... Excuse-moi. Le numéro que je visais quand j'étais jeune, c'était probablement le 11, je te dirais.
Oh ouais, oui, pourquoi?
J'aimais la symétrie du chiffre.
Mariana, ça? Okay.
J'aimais juste la symétrie du chiffre. Juste le fait que c'était 2-1. Je sais pas. Je trouvais que c'était un numéro qui était juste plaisant esthétiquement.
T'as pas tort.
Donc, oui, c'est un classique, en fait, le 11 aussi. J'ai toujours plus aimé les numéros à deux chiffres aussi. Là. Je trouvais que c'est un peu...
Ah ouais?
Ça fait un peu vide quand il y a juste le un chiffre sur le dos du chandail. J'aurais pas été un OV, là. Numéro 8, là.
C'était pas... Le 8, c'est...
c'était pas mon
tellement
style.
Un bon numéro en plus.
Ah, je 8. Sais pas, je suis pas de cet avis-là.
OK.
Mais après ça, ça a évolué. Mais ça a toujours été des nombres impairs, on dirait. Je pense que j'ai eu comme le 11, après j'ai eu le 17. Le 17, c'est mon numéro préféré maintenant.
OK.
Puis c'était jamais vraiment basé sur un joueur en particulier. Comme
non, je suis d'accord.
J'étais pas le kid qui allait être comme, oh, moi je veux le 87 comme Crosby.
Ah.
Crosby. Non, je faisais pas ça.
OK. Je comprends. Je comprends. Je suis d'ailleurs d'avis contraire. Je crois que les numéros à un chiffre sont pour certains extrêmement bons, extrêmement beaux. Mm-hmm. J'étais un gars qui mettait le 7 au plus tard dans ma carrière.
Toi, si j'avais,
avant 16.
Si j'avais eu à choisir un numéro à un chiffre, ça aurait été le 7.
Je sais pas, le 7, il y a quelque chose qui vient me chercher par rapport au 7. Le 9, surutilisé. Le 8, c'est Ovi, on peut lui laisser. Le 6, il n'y a pas personne qui va mettre ça dans le monde du sport.
Ouais,
puis 5 en descendant, c'est pour
c'est
du
des
monde.
Défenseurs.
C'est ça, c'est des défenseurs. Fait qu'on s'en fout un peu.
Ouais.
L'idée est que, regarde, j'ai vu cette liste-là. Du côté de Two in the Box, c'est des gars qui viennent de Buffalo. Mm-hmm. Puis ils l'ont fait un peu plus hockey-centrique.
L'affaire aussi, si je peux t'interrompre.
Oui, vas-y.
Avec les numéros dans le temps, c'est que souvent ça allait avec la 16 aussi. Fait que des fois, des fois les 6, ouais. 7, 8, c'était les petits chandails. Puis si tu voulais un grand, comme si tu voulais un 21 par exemple, un 22, souvent ça ratait à 21 ou 22 aussi.
Ouais.
Puis c'était toujours les plus grands qui les avaient parce que c'était les seuls qui pour qui le chandail flottait pas de fou. Là.
Que, les numéros un peu assignés d'avance.
Ouais, il y avait ça aussi. C'était difficile de vraiment choisir. Mais il y avait des équipes, par contre, qui faisaient ça où il y avait des chandails plus exotiques, là, tu sais, des numéros dans les 70, les 80. Moi, j'ai jamais été dans les équipes comme ça. Comme
ben.
Des fois, je voyais les autres, je les enviais, j'étais comme, ah, ils ont
ouais.
Les chandails cool, là, mais...
Si t'avais, avant qu'on débute la liste, si t'avais à dire le pire chiffre de l'histoire, et là, moi, je vais te dire que c'est le 85, en oubliant le 69. Le 69 n'est pas dans ce... comme, oublie-le, parce que c'est de loin le pire numéro de l'histoire du sport. Le 85, pour moi, il y a quelque chose qui me dérange royalement.
OK.
C'est ça, je vais dire. Louis a dit 74 ou 73.
73?
Ouais.
Moi, je pense que j'aurais qu'un chiffre peut-être dans les 40.
C'est vrai que les 40, c'est pas très beau, mais ça dépend lequel tu vas prendre. Genre 46, c'est pas beau.
46, c'est vraiment pas nice, non.
T'sais, 41, c'est pas pire, je peux vivre avec. 40, c'est cool. Je trouve que 40
ouais,
est cool.
Peut-être dans les 40, je sais pas ce serait quel le pire. Peut-être 48.
J'ai pensé à 48.
Pas un chiffre que j'aime, je te dirais.
Non.
Non.
Il n'y a pas de aura derrière
ouais,
le numéro.
C'est trop aussi comme... Moi, j'aime pas les numéros qui sont trop... comme je sais pas comment le dire, comme bulky, si tu veux. Les numéros qui sont trop costauds.
Ouais, je comprends.
Comme un 48, c'est un numéro qui est costaud, c'est chargé, tu vois.
Ça demande pas de finesse,
non,
dirait.
C'est ça. C'est
juste là.
Oui, c'est juste là. Comme c'est pas un chiffre.
C'est bon.
Ouais.
Et là, on va pas rentrer dans l'analyse de numéro du sport.
C'est dans la finesse.
C'est vrai, 11, c'est très dans la finesse. Ah, oh, le 11, je sais pas, ça me fait penser à Brendan Gallagher. Ça peut
17 dans la finesse de Josh Anderson.
Non. Oh oui, c'est super. Un homme très fin. L'idée est que c'est séparé en listes. Donc, tu as le tiers élite. Après ça, tu vas dans le tiers qui est bon. Puis après ça, tu vas dans le tiers qui est un peu moins bon.
OK.
Et donc, on va passer à travers vite fait.
Oui, vas-y.
Dans le tiers élite... On a le chiffre, et là, tu me dis quand t'es pas
d'accord.
Il y en a assez.
Il y en a beaucoup.
Il y en a assez. Ben, il y a quand même 99 chiffres sur le tableau.
Mm-hmm.
Justement, le 3, le 4,
bon.
Le 9, le 4, je suis d'accord. Le 4,
pas
j'ai
le 3.
Le 3, c'est vrai que je suis pas d'accord.
Le 4, c'est correct. Ouais.
4, 9, 10. Après ça, il y a le 14. Raison X.
On a sauté le 11.
Ah, bah, on a mis le 14.
Inacceptable.
Ouais. Le 16.
Qu'est-ce qu'on fait de ça, cocaïe-vous?
Ouais. Le 16. Le 16, avec lequel je suis assez d'accord. Il n'y a pas 17 en passant.
Oh.
21, 22, 23, 24. Donc, les 4 des 5 premiers chiffres dans les 20 sont là. 22,
okay,
je ne sais pas.
Okay. Je t'arrête tout de suite. Il y a trop de chiffres dans le élite.
Je suis d'accord, mais c'est loin d'être fini.
Il devrait en avoir beaucoup moins.
Ça prend
une aura pour être dans le tiers élite. Ça prend c'est le diamant, Mathieu. C'est un prestige. Tu peux pas garocher n'importe quel numéro là-dedans. Là.
Mais c'est pas fini, en fait, Philippe, parce qu'il y a presque toutes les 20. 27, 28, 29.
Non.
28, je suis pas d'accord. Non. 29, ouais. 44.
Oui, 44.
77.
44, OK. 77.
Super. 88, ouais. Qui est l'un des meilleurs numéros de l'histoire du sport. 88, c'est incroyable. 89 aussi, très beau numéro.
Pas un numéro que je porterais, c'est trop prétentieux, le 88.
C'est vrai que c'est prétentieux. Mais là, c'est pas nice. Juste à William Nylander.
C'est quand même nice. Patrick Kane aussi.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Showtime. 94. Celle-là, je la comprends pas. 97, que je comprends, et 99, qui bon, est tellement fort qu'il est banni. Fait que,
94?
Ouais, je sais. Hein? C'est tellement de... bizarre ouais, comme choix.
De qui? Alexander
choix
de... Barabanov?
Sûrement. Je n'ai même pas pensé à une réplique. Et dans les mentions honorables, il y a le 7.
Okay.
Puis selon, parce qu'il y a une explication aux autres aussi. Là.
7, c'est clairement élite. Là.
Oui, c'est élite.
C'est plus élite que le 94.
Oui, je suis d'accord. C'est, ce qui est plaisant avec le 7, c'est qu'il peut être utilisé autant offensivement que défensivement.
Mm-hmm.
Je trouve ça bien. Brady Tkachuk. Bizarre. De... En tout cas, le 11 mm-hmm. aussi est là. Mm-hmm.
Okay.
Écoute, clairement un bon numéro. Et l'un des meilleurs numéros de l'histoire qui va suivre, le 19. Oh, quel beau chiffre. Un chiffre qui résonne de confiance, le 19.
Mm-hmm.
Tu sais, tu verras pas un joueur qui est mauvais mettre le 19, ben à part Nécroix. Après ça, le 33, qui est selon eux le meilleur numéro de gardien de l'histoire, et ça, c'est vrai. Tu sais, 39, c'était cool avec Dominique Hašek, mais genre le numéro 1, c'est le numéro pauvre. Là, mm-hmm. C'est genre, si t'as pas d'inspiration, tu prends le 1.
Ouais, mais le 33...
Ah, 33, c'est excellent.
Non, mais je veux dire, il y a Roy, mais à part de ça...
C'est exactement ce que je pensais aussi. Ouais, hein. Qui d'autre a mis le numéro 33 dans sa même... carrière?
C'est un numéro qui
est... C'est la crème
est...
de la crème.
Oui, c'est un numéro qui est encore assez comme vierge, là, dans un sens.
Oui.
Comme il y a encore comme une pureté.
Oui, certainement, si on veut le phraser comme
ouais,
ça.
Oui, je sais pas. À défaut d'un meilleur terme, mais bon.
Non, je comprends exactement ce que tu veux dire, Philippe. Mm-hmm. Le numéro 55 aussi, incroyable.
Ouais,
chef's kiss.
Souvent, les numéros comme ça, les numéros symétriques, pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était des bons numéros. Comme les 11,
d'accord.
22, 33, tu sais, 44. Ils sont tous bons.
Yeah. Et finalement, le 91.
66 aussi.
Ouais, 66, c'est... Ah, pourquoi? Attends, il est où, 66?
Ouais, d'ailleurs, on l'a pas entendu.
Oh! Le 66 est dans le tiers de bien.
Ouf.
Oh, wow! Non. Ben, il est dans l'élite, je l'ai déjà nommé.
Oui, tu l'as nommé.
Puis après ça, le 91 qui termine le tiers élite. En fait, je peux pas penser à un joueur qui était mauvais qui a mis le 91.
Mais
faut que j'aille vite dans ma tête. Là. Évidemment, il va probablement en avoir un. Là. Mais je trouve que 91 signifie un bon joueur.
Mm-hmm.
Je passerai pas à travers tout, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te nommer certains qui sont dans le tiers des mauvais. Pour que tu sois d'accord ou non avec, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que de 0 à 31, il n'y a aucun chiffre qui est dans le tiers des mauvais.
OK.
Et ça, je sais pas, mais bizarrement, je suis un peu d'accord. À part le 28. Le 28 mérite dans le tiers mauvais, selon moi.
OK, c'est vrai.
Mm-hmm. Le 28, je crois que c'est le seul.
Ouais.
Mais sinon, écoute, 38 est dans les mauvais. 100% d'accord.
Ouais, c'est vrai.
Un des pires chiffres de l'histoire. 46, 48, tellement d'accord.
J'ai nommé 48.
Yeah. Mm-hmm. 52, pas tant un bon chiffre. 50.
Ouais.
En fait, toutes les 50 sont là, sauf 55 et 51. Tous les 50 sont là.
OK.
Même chose pour les 60, okay. Sauf 61. À l'exception de 61, 66 et 68, pour une raison ou une autre,
okay.
Sont tous là.
Ben, 68, c'est, je veux dire, c'est Yager.
Ah, je le sais, mais c'est pas, ça change pas le fait que c'est un chiffre horrible.
C'est vrai.
C'est pas... Je comprends qu'il y a Yager de portée, mais...
Oui, encore là, moi, j'ai un problème avec les chiffres costauds. C'est un chiffre costaud, ça.
Yeah, c'est extrêmement costaud.
Mmh.
Dans les 70, à l'exception de 71, 74... n'est pas dans le tiers des mauvais.
Ouais,
devrait être dans un tiers en dessous.
Ah oui, 74.
Et 77, ils sont tous là. Même chose pour 80, mais 80, ça s'arrête.
77 devrait attendre. C'est élite, ça, quand même.
Ouais, 67 n'est pas dans le tiers des mauvais. Là. C'est dans l'élite. Non, c'est dans les... Excusez,
les
dans
bons.
Les bons. Ouais.
Devrait être élite.
Je comprends. Et de 86 en montant, c'est là où on n'a absolument rien dans le tiers des mauvais.
OK. Ouais.
Écoute, ouais. Ok, je suis assez d'accord. Malgré 69, que 94...
69, ça devrait être...
Non, 69, ça l'est clairement dans le tiers des mauvais, mais ça devrait être un tiers en dessous.
Ouais.
En fait, c'est des abominations de ce monde. Mais c'était un peu ça, cette liste-là. Pas nécessairement complètement d'accord, mais je trouve qu'il y a une science derrière l'utilisation. Choisir un bon numéro, parce que ça va te définir comme joueur, tu sais, ou ça va définir le numéro. Si tu penses, là, mettons au hockey.
Ah, c'est bon, ça, c'est vrai.
Quel joueur qui définit le numéro? Le numéro est tellement mauvais. Mais le joueur a fait en sorte que le numéro était
je
bon.
Je pense que je viens d'en nommer un, Jagr.
Jagr, 100%.
Avec le 68.
Oui.
Pas un numéro particulièrement attrayant.
Non.
Mais c'est, je veux dire, c'est Jaromir Jagr et que lui. Là. Tu vas pas me nommer un autre 68. Il y en a eu d'autres, là, mais comme...
Mike Hoffman.
Ouais, Mike Hoffman, mais comme...
Mais je comprends. C'est pas... Oui, oui, 100%, tu sais. Des gars comme ça qui ont choisi un numéro tellement pas rapport, puis finalement, ça s'est retrouvé, excusez-moi, un bon
aussi,
numéro.
On a nommé Roy. C'est...
Ouais. Mm-hmm. En fait, je vais aller, OK, après la pause, ou pendant la pause, je vais aller même faire une recherche pour voir quel autre gardien aurait porté le 33. Voir à quel point, tu sais, dans ma tête, je peux même pas y penser. Mais bon, c'était un peu ça pour la science derrière les numéros. Gare, écoute, si vous étiez un ou une sportive dans votre temps, j'aimerais peut-être entendre des histoires de pourquoi. Je suis certain que les gens ont de très bonnes histoires pour pourquoi ils ont choisi un certain numéro. Tout le monde, on va être d'accord que 99% de la population, c'est grâce à leur anniversaire. T'sais, on choisit la journée de notre anniversaire. Ouais. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres histoires. Puis ça serait certainement intéressant à entendre. On prend une courte pause musicale. Au retour, on va s'entretenir avec Philippe sur une petite nouvelle que j'ai trouvée. Ce sera Maud Saunier, demi-tour, qui vous accompagne pour la prochaine 3 minutes et 8 secondes. Le soleil se lève à chaque matin de Danny Placard, 17h27. Et le soleil qui s'était levé ce matin, il fait encore beau aujourd'hui, bien sûr. Et Philippe, il fait aussi beau souvent lorsqu'on s'apprête à faire une énorme course. Je l'ai vécu cet été, Alain l'a vécu avant-hier. Ce qui est encore plus impressionnant, et là on rentre à nouveau dans le monde de la course, c'est courir un demi-marathon ou un marathon avec peut-être un défi, tu sais, un challenge, parce qu'évidemment comme c'est jongler. Tellement facile, oui, comme jongler, parce qu'évidemment c'est tellement facile courir un demi-marathon, tout le monde peut faire ça.
C'est ça.
Franchement. Et y a deux gars à Montréal qui ont décidé, bon, on va rendre la chose un peu plus difficile et un peu plus... Ils ont fait un demi-marathon, Philippe, dans un costume de chien saucisse, mais les deux étaient dans le même costume, attachés ensemble. Ça, c'est fou, ça. Écoute, c'est deux gars qui, arboraient fièrement le logo de Unemployed Bros, qui ont fait ce monstrueux défi-là. Et évidemment, il y en a un qui était à l'arrière du chien saucisse et l'un en avant du chien saucisse.
C'est laquelle qui est la position la plus favorable dans ce cas-là?
Ah, c'est l'arrière du chien saucisse.
Ouais, tu penses?
Je peux pas voir un monde où le devant du chien saucisse qui va juste faire balloter sa tête d'un bord puis de l'autre qui va être le plus agréable. Mais en même temps, si la personne en avant va trop vite, tu manges toute l'asphalte à toi seul.
C'est vrai.
Parce que là,
c'est
le chien saucisse va s'étirer. Et donc, les deux gars qui devaient avoir un pace assez similaire ou une vitesse très similaire. Et en passant, ils n'étaient pas tout seuls pour faire le demi-marathon. Il y était 32 500 participants au Marathon Beneva de Montréal. Mais personne n'a attiré l'attention autant que ces deux jeunes hommes-là.
Pour attirer l'attention, ça marche.
Absolument. C'est deux jeunes hommes du nom de Nicolas Brayel et Thomas Reddy qui résident tous deux à Montréal. Ils ont complété le demi-marathon en tandem hier avec leur costume à fond incroyable. Puis ils ont parcouru le 21,1 km en 2h10. Ce qui est fort impressionnant pour peu importe la personne.
Bon. C'est très bon.
C'est extrêmement notable. Et le pire de tout ça, c'est qu'eux autres l'ont fait avec un costume puis ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Pas encore de nouvelles s'ils ont tombé pendant le parcours. Je m'en viens à ça, on va voir. Selon Reddy, justement, lui a dit que ça a été extrêmement difficile. Je te crois, mon cher ami. ce n'est pas léger non plus comme costume, dit ce dernier.
Mais c'est pas un costume rigide, j'espère. C'est une espèce de
c'est non ben
costume
l'affaire c'est le costume, mais à batterie aussi. Ben, tu sais, pour que ça, c'est un costume, écoute, pour manque de meilleurs mots, inflatable.
Ah, non,
fait que c'est gonflable. Ça. C'est un costume gonflable. Oh, oh. Puis lui, selon ce qu'il mentionne, bien, il y a quand même une batterie puis un ventilateur qui roule en performance. Ce qui veut donc dire que ça rajoute du poids à la personne qui est devant aussi. Puis pour la course, il dit on n'a pas nécessairement toujours le même rythme, mais c'était parfois dur d'être synchronisé. Mm-hmm. Bien évidemment, je peux même pas m'imaginer faire de la bicyclette en tandem. Imagine courir dans un chien saucisse. C'est fou. Puis ce qu'il mentionne là, c'est que l'an dernier, on avait chacun couru le marathon séparément, mais on avait envie, parce que c'était trop facile, on avait envie d'un défi différent. Puis lui, Brielle, qui était à l'arrière-train du Tekel. Oui. Ouais, bon pour lui. Parce que le devant avait de l'air chaotique. Puis le duo qui est bon, assez sympathique compte déjà plus de 47 000 abonnés sur Instagram. C'était bien évidemment pour le contenu, parce que Phil, tu le sais, tout est pour le contenu.
Ben oui.
Explique vouloir multiplier les coûts d'éclat. Ce n'est pas terminé pour les Unemployed Bros. Okay.
Ah depuis, oui, ça va être quoi le prochain?
Je sais pas. Brielle mentionne, depuis 2 ans, on a lancé notre marque Unemployed Bros sur les différents réseaux sociaux et on s'amuse à faire des expériences un peu folles comme cela, mais c'est des expériences folles, mais qui sont quand même très humaines. C'est comique.
Très humaine et très Unemployed Bros.
Oui, très Unemployed Bros.
Ouais.
Puis, écoute, brise-toi pour ça, Phil. Leur défi, c'est vivre 50 expériences hors du commun en 2 ans. En voici une, clairement.
Okay.
Puis, ces derniers qui arrivent bientôt à la moitié de leur objectif.
Wow.
Parce que, ils ont sauté en parachute pendant l'éclipse solaire totale en avril 2024.
Non.
Ça, c'est vraiment cool. Genre, ces personnes-là sont vraiment cool d'avoir fait ça.
J'admire leur... oui.
On est d'accord que...
Fallait y penser aussi.
Oh my God, faut tellement tuer. Qu'est-ce qu'il se dit? Tout le monde se dit, ah oui, c'est vrai, faut que j'achète mes lunettes. Ces gars-là, not on my watch.
Ouais,
je vais sauter directement devant l'éclipse solaire.
Ah, ça a dû prendre des photos de malade aussi.
Ça devait être... pour vrai, pendant 3 secondes, il fallait que je passe parce que je me suis trompé dans mes mots. Fait que j'ai pensé pendant 3 secondes à un mot qui commençait par 5 et j'ai fini par gler. Les deux envisagent ensuite de participer activement au carnaval de Rio au Brésil en février prochain. Honnêtement, j'ai aucune idée quelle activité est le carnaval de Rio, mais juste ce qu'ils viennent de faire là, je trouve ça vraiment cool. C'est des défis comme ça qui définissent ta personnalité, tu sais.
Mm-hmm.
Juste sauter en parachute, c'est un rêve pour moi, j'aimerais y aller, mais le faire devant une éclipse... Oh. Faudrait que je le fasse devant, tu sais, les... comment t'appelles ça, là, dans le Nord, comme dans les pays scandinaves? Des étoiles filantes qui passent, il y a un nom pour ça, là. Les trucs verts. Oh my God, comment
Les aurores boréales.
Les aurores, hey my God, c'était long, ça.
Oui, il y a eu une progression.
Oui, les aurores boréales.
J'ai suivi ton train de pensée. Moi.
Merci,
quand même,
Philippe.
C'est bien.
Ben, tu pourrais être à l'avant de mon train de chien saucisse lorsqu'on va courir.
Non, merci.
Okay. Phil, qu'est-ce qui serait une chose que tu ferais un peu à la Unemployed Bros? Est-ce que tu as déjà pensé à faire quelque chose d'un peu, un peu folle, mais genre humaine quand même?
À la Unemployed Bros. C'est difficile, Mathieu, parce que c'est des idées tellement déjantées. Comme faut un peu que, j'ai l'impression que c'est des choses qui te tombent un peu dessus comme ça. Comme,
100%.
Au hasard, comme...
Faut pas faire de sacrifice, c'est juste vraiment du bon temps, mais avec une idée de plus, tu sais. C'est ça l'affaire avec eux autres, je pense. Je crois que faire une joute de cache-cache dans une île déserte, je pense que ça serait cool.
OK.
Tu sais, jouer à cache-cache, mais sur une île, ben évidemment, il va y avoir des arbres. Tu sais, ce sera pas l'île que tu dessines avec un palmier. Là. On est d'accord que ce sera assez simple. Mais tu sais, une bonne île, tu sais, un radius de... Allons-y avec 500 mètres. Tu sais, 500 mètres de radius, 1 km de circonférence. Comme ça, peut-être 500 mètres de circonférence, finalement.
Moi,
tu sais, juste pour que ce soit assez long.
Mm-hmm.
Mais comme une bonne joute.
Moi, je vais te dire de quoi.
J'écoute, Philippe.
Ben... OK, là, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait quand même une certaine mesure de sécurité en place. Comme, il faudrait que je m'assure un peu...
Que ce soit organisé comme du monde.
Oui, t'sais. De la sécurité de la chose.
Okay.
Mais j'aimerais bien descendre une rivière à fort débit, quand même, comme je dirais une rivière comme une rivière de
rap. C'est un endroit.
Une rivière de non. non comme un débit.
Ouais ouais, non, j'ai compris après.
Une rivière avec tu sais avec des rapides manières, un peu comme où on fait du rafting.
OK.
Mais dans une Zorb ball comme les balles.
Ah, ça c'est drôle.
Ça serait vraiment nice, j'ai l'impression.
Ah, c'est effrayant mais c'est drôle.
Ça pourrait être très très cool comme
Faut juste pas que tu trouves une roche. La seconde que tu trouves une roche, c'est
ça.
Terminé.
Ça en prendrait une qui est très durable puis qui peut absorber les chocs, mais je sais pas si ça ça existe comme truc. Mais comme s'il y a quelqu'un qui peut me dire cette Zorb ball là est entièrement à l'abri de toutes sortes de cassures,
okay.
De perforations, je te dirais, OK, c'est bon, j'embarque.
OK, j'aime ton idée. Mm-hmm. J'aime ton idée. Ben, peut-être qu'on va envoyer quelques-unes idées à notre
Le message est lancé. Hein. S'il y a quelqu'un qui peut me procurer des Zorb ball indestructibles, je vais descendre une rivière avec.
Hey, le message et le challenge est lancé. La première personne qui vient dans nos DMs avec une Zorb ball qui, pour une raison ou une autre, ne se casse pas, se méritera le plaisir de filmer toute l'action de Philippe Giard. Le quiz mystère. C'est le temps de bien terminer l'épisode du retour aujourd'hui avec un quiz mystère. Et Manon qui joue à nous, bonjour.
Allô.
Présentement, dans cette compétition à 75%, c'est 2-1, Philippe. Non, plutôt c'est 1-1, pardon, pour
c'est
le 1-1 quiz.
C'est 1-1 partout. Ah non, j'ai perdu la semaine dernière.
Ouais, c'est 2-1 au palmarès pour Phil et 2-1 pour Phil au Guess the Tune. Et
pourquoi
là...
alors, du coup, on est à 1 là-dessus? Ah, on a commencé après ça?
Ouais, oh. C'est correct. Ben là, aujourd'hui, ça va changer. Bien évidemment, le score qui ne sera pas nivelé nécessairement. Rappelez-moi vite fait qui avait commencé la semaine passée.
J'ai aucune idée, Mathieu.
C'est-tu Manon? Est-ce que Manon avait commencé la semaine passée?
Je sais pas.
Roche, papier, ciseaux, rapidement, mais sûrement. Ou pierre, papier, ciseaux, si on est en France. J'aime qu'on entend juste le son. Oh, ah, c'est un match tendu. Qui l'a gagné? Personne n'a gagné encore.
Ah, c'est bon, allez, vas-y, commence.
Non, je pense que Philippe a gagné.
Non.
De quoi, non?
Vous étiez à égalité. Bon, allez, vas-y.
Ça commençait à être difficile. Là. On était sur la même
longueur de papier. OK, excuse-moi. Ouais. Ouais. Ben, Manon qui a laissé Philippe le droit de commencer. Et donc, la première question est la suivante, Philippe. Combien de côtés possède un dodécagone?
12.
Ouais, celle-là, t'es un peu simple. C'est la bonne réponse, Philippe, pour 2 points. 2-0, déjà, dès le début du match. Manon, à quelle couleur l'adjectif Isabelle se rapporte-t-il?
À quelle couleur l'adjectif Isabelle?
L'adjectif Isabelle. Apparemment, Isabelle n'est pas un nom commun.
C'est entre deux couleurs.
Donne-moi les couleurs, j'ai aucune idée de quoi ça peut...
D'accord, les choix de réponse sont pour un point. Rouge, jaune, bleu ou vert?
Bleu.
Bleu, OK. Ben, allons-y avec bleu, c'est la mauvaise réponse.
C'est jaune ou rouge, mais je me
suis... C'est jaune, ouais, Philippe, absolument, c'est jaune. Apparemment, un jaune Isabelle est un jaune ocre orangé. Ce nom est totalement utilisé, notamment utilisé pour la robe des chevaux.
Ah oui.
Fait que des chevaux ont une robe Isabelle.
Ouais, si tu le dis.
Intéressant. Oh boy. Phil, quel était le nom du premier prototype d'avion créé par Clément Ader et testé en 1890?
Ah oui.
Ah ben oui. Là que t'as les choix de réponse. Ça l'éclaire ça un peu.
Ouais, je pense qu'avec les choix de réponse, je l'aurai sûrement. Là.
Helen, Éole... Ouais. Ulysse ou Atlas?
OK, moi je pensais qu'on cherchait comme un nom comme qu'on retrouverait dans le dictionnaire. Mais on cherche un nom.
Un nom propre.
La machine était nommée.
Oui.
OK, bah, dans ce cas-là, je sais. Dis-le juste une autre fois.
Helen, Éole, dans le fond. Ulysse ou Atlas?
Ouais, Éole, ça serait un peu logique, mais ça sonne plate. Ulysse, Atlas, Ada, les frères Adas, c'était. Ulysse.
On y va avec Ulysse, Phil. C'est Éole, la bonne réponse, malheureusement.
Plate.
Ton instinct de plate était bon.
OK.
Donc, toujours 2-0. Manon, quel est le nom de la souris qui accompagne Dumbo dans le grand classique Disney?
Oh, wow.
Non.
Je sais pas.
Ça, vois-tu, c'en est une possible.
Ça, c'est...
Ah, OK. J'en ai aucune idée non plus.
Non, je suis pas une fan de Dumbo. Vas-y, dis-moi, c'est quoi les propositions?
Jérémy, Timothée, Lucien et Gus. Gus.
Ben, Gus,
moi,
c'est...
Moi, c'est Gus.
Mais non, Gus, ouais. C'est pas la souris dans Cendrillon?
Ah, je sais pas.
Gus, c'est la souris dans Cendrillon. Bah oui, quand même.
OK.
Bah, qui confectionne la robe?
J'ai aucune idée.
Non, qui confectionne ma robe?
Je sais pas. Pour vrai, je suis correct avec...
C'est pas la citrouille?
Non, la citrouille, c'est le carrosse.
Ah, fait longtemps que j'ai vu.
Je pense que vous devriez...
Ouais, on devrait se faire une petite soirée Cendrillon.
On se fait un marathon, on fait, c'est correct. Une soirée Cendrillon, super. Ouais.
Au lieu du match, là, ce soir.
Je sais pas, c'est une bonne question. J'ai juste... OK, Gus, c'est le nom d'une... OK, c'est quoi les trois autres, là?
Jérémy, Timothée et Lucien.
Jérémy, Timothée et Lucien. Il va s'appeler Lucien, là.
Il va s'appeler Lucien. Eh bien, non, il s'appelait Timothée, quand même. C'est bien tenté. Timothée la souris.
C'était quoi les choix de réponse aussi de Lucien?
Lucien, Gus et Jérémy.
Mais Gus, c'est dans la... Je suis sûr que c'est dans Cendrillon.
Je vais te croire aussi.
Okay. Moi, je te crois sur Paris.
Phil, quelles sont les couleurs du drapeau de la Thaïlande? C'est assez simple, ça.
Bleu, blanc, rouge.
On y va avec bleu, blanc, rouge, Phil. C'est une bonne réponse, effectivement. Ouais.
Pourquoi il a des questions si simples?
En fait, t'as dit non à sa réponse, hein, pas ça. Fait que...
Non à sa réponse?
Ouais, il a pas dit bleu, blanc, rouge.
J'ai dit et j'ai fait oui, bleu, blanc, rouge.
Ah ouais. C'était la bonne réponse. C'était assez simple aussi, Philippe, quand même. Pas moi qui décide du reclassement. Hein. OK, on regarde le Ballon d'Or live,
oui,
c'est ça?
Oui, il se pourrait qu'en français, le Ballon d'Or, je suis désolée, mais je suis un peu chauvine.
C'est correct. Manon, comment doit-on écrire 622 millions en toutes lettres? Ou 620 millions en toutes lettres?
Oh mon Dieu!
620 millions en toutes lettres?
Ouais, en fait, on va juste la skipper parce que ça me prend littéralement genre que tu me l'écrives en quelque part.
Ben non, mais elle peut l'épeler.
Ok, ben appelle-la. S-I-X-C-E-N-T. V 620, hein?
Ouais.
V-I-N-G-T.
Ouais.
En fait, c'est le million, savoir si c'est un S ou pas, c'est ça. Attendez, ils ont annoncé... Oh! Le français a eu le Ballon d'Or.
Nice. Ousmane.
Bravo, Ousmane. Mm-hmm.
Et attends, OK, moi, j'ai besoin de l'écrire, genre. M-I-L-L-I-O-N. Est-ce qu'il y a un S?
J'avoue que c'est tricky, pareil.
C'est tricky, ouais.
Honnêtement, moi, je me pose même la question de si je... Ben, dans ma tête, 100, ça, c'est invariable.
Oui, 100, il n'y a pas, c'est sûr.
Mais
million, est-ce qu'il y a un S? Il n'y a pas de S? Bah, milliard, il y a toujours un S, mais million, du coup, il n'y a pas de S. C'est pas ça, c'est le moyen mnémotechnique?
Moi, je pense qu'il y a un...
Il y a un S, allez, vas-y.
Ouais, c'est la bonne réponse. En fait, c'est la seule choix. Comme si tu me disais qu'il n'y en avait pas, l'option n'était même pas là. Fait que il y a un S à
alors,
million.
Alors, c'était sur quoi que ça a changé?
Dans les trois choix de réponse, le seul instance où million n'avait pas de S, c'était avec un S à 100 au lieu. Qui n'était pas la bonne réponse.
Mais y avait-tu des options avec des traits d'union comme...
Même pas.
Okay.
Non, tous étaient écrits de manière assez similaire. Donc maintenant, on dit 4-2. 4-2 en faveur de Philippe. C'est maintenant sa quatrième question, ça? Oui, absolument, sa quatrième question. Philippe, comment s'appelle le village de Haute-Vienne, resté tristement célèbre pour le massacre de sa population par les soldats allemands le 10 juin 1944? Et là, j'assume que tu vas me demander pour des choix de réponse.
Le 10 juin 1944.
Oui.
Haute-Vienne.
Oh,
un
bon,
village de Haute-Vienne.
Je l'ai.
C'est le nom. On cherche le nom autrichien. Ou...
Non,
juste le village. Non, la
Haute-Vienne, c'est en France.
Moi, je pensais à Vienne comme.
Non. Haute-Vienne. Ouais, non.
Ok, Haute-Vienne. Donne-moi les choix de réponse.
Est-ce que c'est A, Auvillé-la-Boisselle, pardon? B, Arnac-la-Poste? C'est drôle, ça.
quand même pas.
C, Oradeur-sur-Glane ou D, Beaumont-en-Verdunois? Hey, Arnac-la-Poste, c'est drôle.
Non, pas du tout. Je pensais pas du tout que c'était ça.
Écoute, c'est...
Arnac-la-Poste, c'est bon, ça.
Autant rouler les dés, là. Comme on roule les dés, je vais dire D.
OK, avec Beaumont en vert du noir. Phil, c'était Orado sur Glane qu'on cherchait. Mais clairement, la bonne réponse. Et toujours ouais, 4 à 2, Philippe.
Même pas dans le bon pays.
Manon, maintenant, ton avant-dernière question. Quel artiste... non, on peut pas faire ça parce que tu ne vois rien. que permet de mesurer l'échelle de Scoville?
C'est la puissance et... comme des... comment ça s'appelle? Et les trucs de piquant, là, comme si c'était pour les sauces piquantes.
Oui, oui, c'est l'intensité des piments, effectivement. Ouais. L'égalité est créée à la dernière question. Philippe, laquelle de ces... Non, pourquoi qu'il me... Ah non, je l'ai. Laquelle de ces célèbres œuvres d'art est exposée au Louvre, le musée, bien sûr, de France?
Simple,
ah non, mais là, ouais. Je suis pas français. Là.
Est-ce que c'est A, la Seine, avec, bien sûr, de Léonard de Vinci? Est-ce que c'est B, David de Michel-Ange, la sculpture? Est-ce que c'est C, la Vénus de Milo de Antioche? Ou est-ce que c'est D, la jeune fille à la perle de Joan Vermeer?
Répète.
La Seine, qui est la réponse A de Léonard de Vinci. David de Michel-Ange, qui est la statue un peu à l'antique Grèce antique.
Oui, oui.
C, ce sera la Vénus de Milo, d'un artiste qui s'appelle Antioche, qui est très similaire à la sculpture de Michel-Ange, je dois l'avouer. Et finalement, la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer.
La Seine.
Oui, avec la Seine de Léonard de Vinci, c'est plutôt la Vénus de Milo d'Antioche.
La Seine, elle est en Angleterre, si je ne m'abuse. Soit en Italie, soit en Angleterre.
Ce qui veut donc laisser Manon avec une possibilité de remporter aujourd'hui et d'égaliser la marque, plutôt de prendre l'avance de 1 dans le quiz, le comeback. Aussi. Manon, quelle est la dernière lettre de l'alphabet grec?
Ça, je suis nulle à ça. Alors, vraiment très nulle. Donne-moi les propositions parce que
absolument. Je pense que je c'est assez simple. A, est-ce que c'est sigma, B, lambda, C, oméga ou D, delta? Pour la gloire.
Oméga, delta, c'était quoi le premier? Sigma?
Sigma. Lambda, oméga et delta.
Mais tout ça, ils disent dans les trucs aériens et ça n'a pas l'air d'être la dernière lettre de l'alphabet.
Je sais pas, moi.
Tu sais, là, j'ai juste Top Gun dans la tête avec tous les trucs. Mais attends, pourquoi Oméga, le O, serait le dernier? Sigma, c'est le S. Delta, c'est le D. C'est quoi le dernier, là? Dans les trois.
Delta, Lambda, Oméga, Sigma.
Besoin sigma, d'une réponse. Je sais pas. Oméga, Sigma, je sais pas.
Ben, quel des deux sigma?
Oméga.
C'est Oméga?
C'est Oméga, la bonne réponse, absolument. Ça, ce qui veut donc dire qu'on doit continuer pour trouver un champion en espérant que quand même est 54. Quelle reine d'Égypte était la première épouse du pharaon Ramsès II, Philippe? J'assume que tu auras besoin des choix de réponse.
Aïe. Oui.
Néfertari, Cléopâtre, Hatshepsut. Hatshepsut, ok. Et Tilly, c'est ça tes choix de réponse.
Come on.
Clairement. Tout le monde les connaît, eux autres. Surtout Hatshepsut. Épouse du pharaon Ramsès.
Ouais, ça sera pas Cléopâtre. Ça, c'est sûr. Tilly.
On y va avec Tilly.
Ouais, je pense que c'est ça.
Phil, c'est la mauvaise réponse. Ah ouais? On cherchait Néfertari.
J'aurais répondu à la même chose que toi. Je pensais que c'était ça.
Et Manon, pour la gloire, ça sonne tellement français en plus.
Allez, pour la gloire.
Dans quelle discipline sportive Muriel Hermine s'est-elle illustrée? Est-ce que tu as besoin des choix de réponse?
Muriel Hermine?
Ouais. Et je vais juste fact-checker si c'est...
Ok, vas-y.
C'est bel et bien une française. Est-ce que c'est A, le patinage artistique?
Pourquoi s'appelle Muriel? Oui, elle est française.
C'est fort. Mais je connais la tante aussi, de mon ami qui s'appelle Muriel.
Moi aussi, tu sais.
OK.
Patinage artistique, natation synchronisée, le ski alpin ou le judo?
Oh. Attends, redis-moi Muriel.
Muriel Hermine.
Hermine. OK, Hermine. Ski alpin.
On y va avec ski alpin pour la gloire. C'est une mauvaise réponse. On passe à autre chose.
C'est quoi la natation?
Oui, c'est quoi la bonne réponse?
La bonne réponse, c'est la natation synchronisée.
OK.
Philippe, nice. Quelle fleur est réputée pour sa mauvaise odeur?
Ben là,
Mathis.
Il y en a beaucoup.
Il doit en avoir plus.
Ouais,
que
oui,
vas-y, donne des choix de réponse.
Est-ce que c'est A, la fleur de chèvrefeuille,
ouais.
B, la fleur de mimosa, C, la fleur de seringa ou D, la fleur de colza?
OK. Le colza, ça te sent pas particulièrement mauvais, je me dis. Puis la deuxième que t'as mis, c'était laquelle?
La fleur de mimosa.
Bah, la mimosa non plus.
Bah, ça sent pas bon non plus, là.
Ouais, ça sent pas bon non plus, mais...
Elle est réputée pour ça, apparemment.
OK, chèvrefeuille, puis l'autre, c'est quoi?
Seringa.
Ça, je sais pas ce que c'est.
Je veux dire... Seringa.
Seringa. On cherchait la fleur de colza, Philippe, pour
ah,
la
oui.
bonne réponse.
Ah oui, OK.
Non, mais...
Il est 17h56. Mais
OK,
non.
OK, vas-y.
Ah, en plus, c'est un acronyme français, super. Ah. Quelle était la signification du C de l'acronyme français ACEDIC? A-S-S-E-D-I-C.
Les acédiques. Non, mais non.
Ah, mais elle connaît ça en plus.
Oui, les acédiques, c'est genre les gens qui sont pauvres, là, on leur donne les acédiques, là, comme.
OK. Mais les acédiques devront rouler.
OK, donne-moi les propositions, parce que je sais pas. Ça, c'est vieux, c'est comme mes parents qui avaient ça.
OK, c'est comme le bien-être social, genre. Ou...
Est-ce que c'est A, compte, B, conseil, C, contractuel ou D, commerce?
C'est. Attends. C'est. Mais j'ai aucune idée. Vas-y, redis, c'est quoi?
Ah. Hey, compte, conseil, contractuel ou commerce?
Allez, c'est capable, Manon.
Conseil ou commerce?
Manon,
conseil.
Conseil.
C'est pas la bonne
réponse. Bon, Phil! La prochaine réponse gagne.
Ouais, dis, pose la question, pas. On fait un...
Ouais, ouais, ouais.
C'est la première,
ouais, absolument. Quelle proposition désigne le nom d'un groupe de rap belge des années 90?
OK, vas-y.
C'est quoi ça?
Est-ce que c'est Benny B, Benny D, Benny M ou Benny Z?
Benny B.
Oh my God, les deux ont répondu Benny B. C'est une bonne réponse.
Ah oui, je l'ai.
On l'a dit simultanément.
Ah, dans le milieu artistique, que signifie l'expression « le chant du cygne » Est-ce que c'est A, la première œuvre de l'artiste, B, l'œuvre la plus chère de l'artiste, C, la dernière
œuvre de l'artiste?
Ben non, il faut que tu dois avoir toutes les propositions.
Et D, le catalogue complet d'un artiste, lui, a déjà dit C.
La dernière œuvre, moi, je pense que c'est le catalogue complet.
OK. C'est Philippe qui l'emporte.
Ouais. Bravo.
Oh, Seigneur. Finalement, hey, on en est sorti, il est 17h58, c'est fou. Ça en est fou. Écoute, c'est quoi? Ce qui va donc porter la marque du quiz aussi,
ben en fait,
à 2-1 en faveur de Philippe.
Tu l'as partout, ouais.
Ouais. Philippe, ben écoute, ça fait juste 3 éditions. On est d'accord qu'il en reste beaucoup. Mmh. Il en reste beaucoup à jouer. On ne peut pas s'emporter.
Oh. Par contre, tu fais des quiz plus simples.
Ben, c'est pas moi qui fais les quiz.
S'il te plaît.
C'est des quiz français.
Mais c'est
atroce. Parle-en à ton pays. Parle-en
puis je vais
conseil.
Leur parler et je vais t'envoyer des quiz meilleurs que ça.
Ben, au pire, je prendrai la question en bas, les moyens au lieu des difficiles. Bon,
ouais.
Bref, peu importe, il faut qu'on termine.
Mais les acédiques, comme, franchement.
Au moins, t'es connais, Philippe ne connaît rien là-dedans. En tout cas, c'est ce qui va terminer le retour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tenu bon pendant les 25 minutes de quiz. De retour demain, même heure, sur le 93.5 Kodiak FM, bien sûr. Sur ce, on se dit, pour une bonne fois, bon match!